Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Par les temps qui courent, écoute les artistes parler pendant une heure. Et ce soir, rencontre avec Chloé Delhomme.
Un tango, une danse, un baiser.
Et du bout à pépé,
ça y est, je suis 21h.
Ah bah, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
avec Romain Bec de Lièvre.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Je vous écris d'où je suis, en seconde partie de vie, peut-être au dernier tiers. L'époque est historique et ma jouissance totale. La révolution numérique a apporté aux femmes des outils et réflexes qui les rendent solidaires, conscientes qu'elles forment un nous hétéroclite, un nous de moi aussi. Être perçue comme femme et être traitée comme telle, c'est cela que nous partageons, et ce nous n'est pas seul. Un an et demi après MeToo, votre dernier livre, Chloé Delhomme, retrace et explore les conséquences de ce mouvement et de la percée qu'il a produit, devant et derrière les écrans. Un dernier livre, un nouveau manifeste, qui déplie en récit, en slogan, en images, voire en chansons, cette nouvelle possibilité d'un nous qui n'est pas seul. Bonsoir Chloé Delhomme.
Bonsoir.
Mes bien chères sœurs, c'est le titre de ce dernier livre, il est publié aux éditions du Seuil. Il en appelle à une sororisation générale. Bienvenue.
Merci.
J'écris de chez les vraiment toutes seules, les orphelines, les nullipares, les célibataires à Paris, celles sans attache ni branche qui dans le réel flottent, qui s'écrivent à la craie, leur vie faite de falaises, qui ne savent pas qui prévenir en cas d'accident. J'écris de chez les sans famille, celles qui doivent s'inventer chaque jour, de chez celles qui en rigolent, c'est une question de principe. La faiblesse est toujours une maladie honteuse. J'écris de chez celles qui ont des douleurs menstruelles effroyables, des bouffées de chaleur précoces et qui n'osent plus s'en plaindre de crainte d'être traitées d'essentialistes. Celles qui culpabilisent de ne pas être assez fortes, celles qui ont mis longtemps avant de crever leur trouille, celles qui perçoivent une sœur dans le cœur de chaque transsexuel et admirent leur courage au point de puiser dedans. Devenir celle que je voulais, personnage de fiction. J'écris de chez les chieuses, les princesses hystériques, authentiques drama queen, le donjon de la reine de pommes, les tellement meufs que dépassées, trop à l'aise avec leur féminité dans le débat public obsolète. Celles qui paraissent suspectes d'avoir trouvé leur place, celles qui doivent avoir honte d'être des proies faciles, celles qui devaient s'adapter pour ne plus être des cibles, celles qui désormais voient qu'elles sont partout légion, mais ne savent pas tellement une fois quitté le clavier et l'écran, comment faire pour qu'enfin le réel se modifie? J'écris depuis 20 ans. En France aujourd'hui, les écrivains, c'est seulement 30% de femmes. Le langage a toujours été une chasse gardée. Qui possède le langage possédera le pouvoir.
Chloé Delhomme, on entend un premier extrait de votre livre « Mes bien chères sœurs » lu par Jeanne Aléos, où on entend cette répétition à chaque paragraphe de « j'écris de »,« j'écris depuis ». Est-ce que c'était quelque chose qui vous a apparu nécessaire dans l'écriture de ce livre, de signaler l'origine de l'écriture ?
C'était très important, et puis c'était l'hommage à Despentes, mine de rien aussi, qui me semblait nécessaire également. C'était important parce que c'est un appel, ce livre plutôt, un essai où il y a une petite forme manifeste, mais c'est surtout une sorte de livraison d'un intime qui essaye de réfléchir à ce que c'est qu'être féministe aujourd'hui aussi, est-ce que ça change, ce qui a changé, Et j'appartiens à une génération où la construction de la femme, c'était pas si simple encore. Enfin, j'ai 46 ans.
Et on entend ses origines, et ses origines, elles sont multiples. J'écris de plusieurs points de vue. Est-ce que c'était aussi évident, ça, que les origines de l'écriture étaient multiples pour vous ?
Oui, ça a toujours été, je pense. Et puis, c'est aussi la construction d'identité de femme. Elle est faite de plein de facettes et de plein d'expériences, surtout d'expériences. Et disons que j'arrive... J'en suis à une trentaine de livres maintenant, et je crois qu'il y avait aussi un besoin de refaire le point d'où je parle et ce que je suis devenue et par où je suis passée. Donc par le prisme du en tant que femme, évidemment, dans ce cas-ci. Et ça voulait dire revenir aussi sur l'enfance, mais aussi les expériences au rapport à l'homme, l'expérience prostitutionnelle et tout ça, même si c'est vite fait à chaque fois parce que c'est les points d'énonciation. Mais je pense que ça éclaire et que c'était nécessaire.
Ça avait une valeur récapitulative.
Ouais. Oui, oui, je pense. Enfin, j'ai vécu comme ça.
Et c'était concomitant, vraiment, cette idée de à la fois produire un appel et en même temps récapituler.
Bah, disons que j'ai pensé d'abord à écrire l'appel, mais c'est à la base, je voulais pas écrire un appel. À la base, j'avais voulu écrire une pièce de théâtre. En fait, c'est un texte qui a été qui est écrit à la suite d'une résidence écrivain Île-de-France que j'ai faite chez Violette & Co, la librairie, et on tenait en partenariat aussi des ateliers d'écriture au Palais de la Femme. Et en fait, au début, je voulais écrire une pièce de théâtre pour qu'il y ait un côté toucher le public. C'est-à-dire que moi, quand j'écris des romans, on comprend pas très bien ce que je fais. Et le message est pas très efficace. La preuve avec Les Sorcières de la République, je disais la même chose, mais en creux, ce qui était une drôle d'idée, mais... Tout se passait mal dans cette dystopie, les femmes prenaient le pouvoir parce que il n'y avait pas de sororité. Sauf que, au lieu de, voilà. Donc là, il fallait que je m'y prenne autrement. Il fallait que je sois frontale et claire. Donc du coup, ça s'est imposé la forme, un peu bizarre, mais elle s'est imposée parce que c'était finalement, je voulais toucher par une pièce de théâtre. Le but du jeu, en fait, c'est ça, c'était que je voulais parler aux gens clairement. Et donc, comme je m'emberlificotais dans la préparation de cette pièce qui n'a pas vu le jour, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, peut-être on arrête les machineries, les expérimentations, les systèmes, les complications stylistiques et installationnistes. Et puis, on va à l'essentiel et peut-être juste on parle. Voilà. Et ça, c'est un peu nouveau chez moi. Enfin, peut-être que ça sera la première et dernière fois aussi, je ne sais pas.
C'était se défaire aussi du personnage ?
Non, parce que le personnage, c'est moi. Enfin, je veux dire, je suis devenue personnage. Moi, pour moi, ce personnage, c'est vraiment de fiction et pas... Non. C'était au contraire montrer à quel point le performatif, il est effectif chez moi. Je suis vraiment devenue Chloé Delhomme qui s'est construit... Enfin, donc, oui, là, ça fait un peu Alain Delon raconte, mais... C'est le problème de l'autofiction, quand on en parle, c'est toujours un petit peu dangereux au niveau du ridicule, parfois, j'en suis consciente. Mais je suis devenue celle que je voulais, indépendamment du déterminisme social qui était socioculturel, qui était très lourd, indépendamment des traumas pas toujours évidents psychologiquement à gérer, indépendamment de ma bipolarité aussi. Donc je suis je crois que c'est important que de pas se défaire du personnage, au contraire de montrer que le personnage est une individualité forte et debout
et que c'est une conquête.
Ouais, vraiment une conquête, même de territoire corporel, finalement, dans la maîtrise. Ouais,
dans les premières pages de Mes bien chères sœurs, il y a cette évocation aussi de l'autofiction. Dans la particularité du mouvement MeToo, qui était que ça s'est beaucoup passé par les réseaux sociaux, et on peut y lire l'idée que, à l'ère de Instagram, Twitter, etc., tout le monde en est appelé à une forme d'autofiction, en tout cas de mise en scène de soi, mais qui serait. Je me suis demandé quel regard vous portiez là-dessus, justement, sur cette mise en fiction de soi sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux, ce qui est compliqué, c'est que c'est le contraire de l'autofiction littéraire dans ce que ça génère, dans la mesure où les réseaux sociaux, la forme d'autofiction, elle est toujours laudative, elle est toujours valorisante. Et en autofiction, en général, nous, on travaille avec ce qu'il y a de pire, avec des matériaux. Je veux dire, même Catherine Cussel a fait Radine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours la part sombre qui va être travaillée dans les textes autofictifs, les parts lourdes. Facebook, c'est fait pour... c'est une vitrine. C'est un petit peu différent dans l'approche. Et en même temps, on est... non, on est dans autre chose. On est dans un rapport au like. C'est très différent de l'autofiction littéraire. Il y a juste une mise en fictionnalisation du jeu. Et effectivement, le narrateur, l'auteur et le héros sont la même personne. Donc, d'un point de vue théorique, c'est de l'autofiction, on va dire. Après, dans le résultat, c'est vraiment autre chose.
On trouve, dans plusieurs endroits dans ce livre, l'idée que, avec MeToo, les temps sont venus.
Oui.
Il y a un peu quelque chose dans le ton de cet ordre-là.
Bien, j'y crois vraiment et j'avais envie de porter l'enthousiasme pour une fois. Et d'ailleurs, je découvre ce que c'est que d'être optimiste et la violence que c'est, la difficulté que c'est de tenir un propos optimiste, quel qu'il soit, je pense, mais même ici, parce que les signes sont contradictoires. Mais il y a, là, je pense par exemple à récemment pour les rédactions journalistiques, ce qui a pu se faire, ce qui a pu tomber après l'affaire de la Ligue du LOL, le renouvellement sain qui s'opère du coup. Je crois que il y a quelque chose d'inédit qui se passe, c'est que l'impunité est tombée. Voilà. On est dans un pays où la pression sexiste est énorme. Pendant très très longtemps, c'était passé sous le tapis, c'était accepté, c'était culturellement intégré. On faisait passer souvent ça sous le couvert du génie de la drague à la française, un peu. Et puis je crois qu'aussi beaucoup d'hommes, parce que la majorité des hommes ne sont pas des relous et des harceleurs. Et beaucoup d'hommes sont tombés de l'armoire aussi, hein, quand MeToo est arrivé, quand il y a eu Balance ton porc. Je crois qu'il y a beaucoup dans toute génération confondue, hein, d'hommes qui étaient pas conscients de ce que c'était comme pression au quotidien. Depuis 2010, nous, ça a commencé un peu avec Païta Schneck. Après, il y a eu Vie de meuf.
Et là, c'est le témoignage sur Internet de femmes qui témoignaient du harcèlement de rue quotidien.
Et je crois que oui, ça a été une surprise pour beaucoup d'hommes et une vraie libération pour beaucoup de femmes qui se sont rendues compte que c'était le quotidien de tout le monde et que au bout d'un moment, peut-être qu'on allait s'allier pour expliquer que ça suffisait et que ça devait changer inéluctablement, quoi. Donc moi, j'aime assez l'idée d'assister à une époque historique comme ça, c'est super excitant. Et en même temps, ça me semble être un mouvement qui est dans le mouvement un peu irrémédiable. Enfin, je vois pas comment est-ce qu'on... Faut être super vigilant, évidemment, mais là, j'ai l'impression que la force fait quand même plier. Il y a une volonté de masse, quelque chose de l'ordre de la révolution des mœurs, en fait. Et il y a que comme ça que ça peut se passer, parce que les lois, il y a encore un peu de boulot, évidemment, mais comment voulez-vous empêcher des uxoricides par des lois? L'assassinat de conjoint, je veux dire, par exemple, ou c'est par les mœurs, des violences conjugales aussi, évidemment, par... Mais c'est par les mœurs beaucoup. Avant de punir, il faut quand même qu'on arrive à neutraliser le phénomène. Donc c'est par les mœurs.
Est-ce que, alors c'est peut-être difficile d'être optimiste, en tout cas d'adopter la position optimiste comme vous le disiez, mais est-ce que ça a été un livre plus facile à écrire?
Je l'ai fait en 2 mois. Je l'ai fait en 2 mois cet été. D'habitude, le précédent m'avait pris 4 ans. D'habitude, en moyenne, il me faut 1 an et demi, 2 ans. C'était, à part le cri du sablier que j'avais fait en 3-4 mois aussi, un peu en état d'énervement. Celui-là, j'étais en état de fébrilité, mais une fébrilité qui était effectivement plutôt positive et joyeuse et pas dans la némésis aussi. Je crois que c'est le seul livre, en fait, que j'ai écrit en n'ayant pas quelque chose de l'ordre de la revanche à un point donné qui soit dedans.
Dans les contempteurs de MeToo, il y a pu avoir ce discours-là aussi un peu, dès qu'il y a une forme de revanche des femmes.
C'est-à-dire que c'est normal qu'ils le vivent comme tel, parce qu'il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire, et donc évidemment c'est en leur défaveur, et évidemment les points de virilité, les marques de virilité, tout ça s'effondre complètement, donc ils sont aux abois, les pauvres petits poussins. C'est bien dommage, mais je crois qu'à un moment donné, il faut en passer par là. Il va y avoir de la casse, oui, à un moment donné, mais de la casse, comme ça s'appelle, des petits coups de balai de sorcière qui viennent un peu nettoyer et aérer la pièce, parce que c'est plus tenable, juste. Et puis c'est plus tenable pour les hommes aussi. Je veux dire, c'est plus tenable pour personne. Donc je pense que ce petit ménage de printemps est en train de s'opérer dans la joie et la bonne humeur partout.
Je vous propose qu'on écoute Simone de Beauvoir.
Utiliser le mot suffragette et féministe comme insulte, ça prouve qu'on est soi-même profondément antiféministe, parce qu'enfin, avec tout le ridicule et toutes les difficultés qu'elles avaient à traverser, ces femmes combattaient pour un combat qui était valable. Quoique, bien entendu, je n'approuve pas ni leur méthode, ni beaucoup de leur manière de penser. Mais enfin, elles étaient féministes et elles avaient raison de l'être. Et certainement, je le suis aussi, si on entend par là que je souhaite que les femmes deviennent des êtres humains qui soient absolument autonomes et responsables d'eux-mêmes comme les hommes. Par ailleurs, je ne crois pas du tout avoir négligé la description de ce qu'est vraiment la condition féminine. Je ne crois pas du tout avoir négligé le fait qu'il y a un donné, au contraire, j'ai consacré à cela tout mon premier volume, un donné physiologique, historique, social, qui définit la femme comme étant autre que l'homme, profondément différente. La question, c'est de savoir, à partir de là, quelles sont ses chances, quels chemins peuvent être ouverts à sa liberté, et c'est de l'aider à se sauver comme être humain dans le monde où elle a naturellement, comme tout individu d'ailleurs, une situation très singulière. On s'est mépris d'ailleurs si on a cru que j'étais, mettons par exemple, contre la maternité. Je suis simplement contre un certain asservissement de la femme à la maternité. On s'est mépris si on a cru que j'étais, par exemple, contre l'amour, alors que j'ai simplement réclamé que l'amour soit une relation de sujet à sujet, de personne à personne, et non pas une espèce d'esclavage et de mysticisme qui fait que alors la femme se mettra aux genoux de l'homme comme un dieu, et du même coup d'ailleurs lui donnera toutes les charges qu'on donne ordinairement à un dieu, etc., etc.
Eh bien, est-ce que vous voudriez, pour finir, me dire sur le terrain de la pratique, qu'est-ce qu'exactement vous voudriez ? Qu'est-ce que vous voudriez voir changer dans la condition actuelle ou passée ? Car je crois qu'elle est en train de se bouleverser.
Pour moi, ça se réduit à quelque chose de très simple. Il faut que les femmes travaillent. Et comme ça, elles ne seront plus des parasites. Et elles s'en trouveront beaucoup mieux. Et je crois aussi les hommes, puisqu'ils se plaignent bien souvent d'être dévorés par précisément les femmes qui n'ont pas d'autres... à d'autres métiers.
Oui, vous pensez que l'indépendance économique est la condition sine qua non de...
Absolument, c'est à la fois la garantie de leur indépendance, de la conscience qu'elles prendront d'elles-mêmes, des responsabilités qu'elles auront à assumer, et la base sur laquelle alors elles peuvent revendiquer des droits civiques et avoir vraiment un rôle dans la société, et trouver par-dessus le marché leur bonheur en même temps que leur liberté.
La première vague féministe est celle ayant permis le droit de vote et l'égalité juridique. Ce sont les actives suffragettes et le féminisme du mouvement ouvrier. Fin 19e, milieu 20e, les vagues se creusent dans les révolutions industrielles. La deuxième vague déferle au milieu des années 1960 et pendant les années 70. L'égalité est revendiquée et le droit de disposer de son corps. Ce sont nos aïeuls du MLF, la femme du soldat inconnu, le manifeste des 343 salopes. Le droit à l'avortement libre, le féminisme matérialiste, le féminisme essentialiste, féminisme s'écrit au pluriel. La troisième vague féministe est arc-en-ciel, partie des États-Unis dans le milieu des années 80. Militante issue des groupes minoritaires, intersectionnalisme, visibilisation de minorités ethnoculturelles, questions de genre, théorie queer, c'est elle qui a su déconstruire en ses fondements le patriarcat en s'attaquant entre autres à la binarité. La troisième vague est activiste, politique et organisée. Dès l'apparition d'Internet, la troisième vague s'y est déployée. Des initiatives individuelles et collectives, des sites, des blogs, transmission de savoir, études, index, lexique, matrimoine, connaissances, expériences personnelles, recherche et création militante, collectifs artistiques, politiques, États-Unis et Canada, courant queer, cyberféminisme, Donna Haraway, manifeste, code, théorie, encore, théorie. La quatrième vague féministe est violette. C'est une colère de suffragettes. Majorité visible, jusqu'ici silencieuse, le sexisme ordinaire, une lutte de chaque instant. Elle utilise les technologies numériques et les réseaux sociaux comme outils et comme armes, reprise quotidienne des informations et chiffres relatifs aux inégalités et aux violences faites aux femmes, création de hashtags qui virent au raz-de-marée.
Chloé Delhomme, on écoute un deuxième extrait de « Mes bien chères sœurs » lu par Jeanne Aléos qui rappelle les quatre vagues du féminisme successives. Et juste avant, c'était une archive de Simone de Beauvoir à l'ORTF en 1949, il y a 70 ans. Comment vous recevez cette parole de Simone de Beauvoir ?
Ce qu'elle disait, c'était la chambre à soi de Virginia Woolf, hein, la conclusion. C'est fou qu'on en revienne toujours à cette histoire d'autonomie financière. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la réception du mot féministe à travers les âges, et où on s'en sort toujours pas. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que là, maintenant, évidemment, ça devient même un mot qui peut être écrit sur des t-shirts qui sont vendus par des marques de vêtements. Donc, le terme, on a l'impression qu'il est passé, que c'est plus une insulte. Puis en fait, si on va un peu sur le terrain et qu'on sort d'un petit carcan qui pense... Enfin, progressiste, on va dire, on se rend compte qu'il y a plein de points où encore ça relève pas de l'insulte pure violemment, mais qu'il y a quand même du mépris, du dédain dans le terme de féministe, ou alors une association à une forme d'hystérie, à les féministes quand elles parlent, je me bouche les oreilles, ou il y a encore ça, il y a encore c'est pas un terme, c'est un terme, c'est pour ça que c'est important les mots et qu'il faut absolument qu'on s'en réempare. Et qu'on en refasse une force vive et un mot qui porte la révolution.
Vous racontez dans le livre votre première rencontre avec le mot féministe, où justement c'est un mot qui est décrié.
Oui, oui, c'est ma tante qui me traite de féministe. Et ça sous-entend que les féministes vont finir, sont des femmes acariâtres en gros, hein, pour la... des femmes acariâtres qui revendiquent, qui restent pas à leur place, surtout, c'est ça qui, que ça signifiait, c'était que je ne voulais pas rester à ma place assignée de femmes soumises en quelque sorte. Enfin, même pas qu'en quelque sorte, de façon très claire. Et du coup, je suis allée chercher le mot dans le dictionnaire en étant persuadée, très sincèrement, j'étais en cinquième, je me souviens très bien, j'étais persuadée que j'allais tomber sur un trouble de la personnalité ou une maladie psychiatrique ou quelque chose qui était vraiment, vraiment problématique, oui.
Et on entend dans le rappel de ces vagues successives, qui sont aussi donc des vagues, qui sont des vagues chronologiques, de quatre moments du féminisme, c'est aussi quelque chose qui a pu éclater. Enfin, on peut aussi percevoir le mouvement féministe comme un mouvement plutôt éclaté, fracturé, avec des tendances qui sont différentes. Et ce qui apparaît dans Mes bien chères sœurs, c'est l'idée que la catégorie de femme, pour vous, elle résiste à un moment. C'est-à-dire, elle est bonne, elle fonctionne, il faut l'employer.
Il faut l'employer comme une classe, effectivement, parce que du temps des féministes matérialistes, on considérait que les femmes étaient le prolétariat du prolétariat. Je pense que c'est une vision qui est très juste. On sait très bien que ce sont les femmes qui sont en plus extrême précarité. Et c'est un nous qui doit advenir et qui ne peut advenir que... La phrase est Julia Serrano dans le manifeste d'une femme trans. Donc c'est intéressant que ce soit une personne transsexuelle qui ait trouvé cette phrase. C'est la seule chose que toutes les femmes partagent, c'est d'être traitée comme femme et perçue comme telle. Et je l'ai mis en exergue du livre. Je mets jamais des exergues. Là, c'est pareil, ce coup-ci, je l'ai fait. Parce que ça éclaire vraiment le problème. C'est transclasse, c'est trans tout. Il faut que le nous soit constitué. Il y a qu'en ayant un nous fort que ça peut marcher. C'est pour ça qu'il faut une forme de solidarité, qu'il faut de la sororité.
Et la particularité, justement, du mouvement MeToo, c'était celle-là. C'était oui. Que ce sont les femmes qui apparaissent en tant que, entre guillemets, corps constitué. Enfin,
corps constitué de Madame Tout-le-Monde, une sorte de grande vague de Madame Tout-le-Monde. C'est pas, on a eu pendant longtemps des formes de féminisme qui étaient beaucoup militants ou très intellectuels. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment organique et ça vient de la base. C'est vraiment un frémissement et un ras-le-bol qui vient de la base, qui vient de la masse, un peu comme dans la deuxième vague quand le MLF est apparu. Et ça, c'est intéressant parce que je me disais l'autre jour que les États-Unis, enfin, parce que nos courants féministes sont quand même très liés à ce qui se passe aux États-Unis. MeToo apparaît, on a balance ton porc. Mais ce qui est amusant, c'est que autant pour les questions de genre et tout ça, le fait que ce soit des universités américaines qui soient précurseuses, ça change pas grand chose pour nous. Par contre, aux États-Unis, le balance ton porc, la culture porcine qu'il y a en France, la rirette, je veux dire, pour un Américain, ça n'a pas de sens, il serait outré. Nous, on vit dans cette culture latino-grasse.
Que vous appelez la gaudriole.
Oui, c'est le bon esprit de la gaudriole. Sous couvert de c'est un truc culturel, et sous couvert de la madelon à qui on pince les fesses et les seins, bah du coup, on a le droit d'harceler au bureau, on a le droit de mal se tenir dans le métro, on a le droit de faire pression en permanence et de faire des blagues sexuelles et sexistes. Enfin, c'est hyper malaisant quand même. Et puis surtout, c'est agressif et c'est très destructeur. Et je crois que là, c'est pour ça que je parlais de révolution des mœurs, quoi, parce que c'est, ça vient vraiment naturellement, spontanément et de partout, surtout de partout. C'est-à-dire que là où parfois on peut voir que la troisième vague, on peut considérer qu'elle était un peu en discordante. Enfin, disons que entre le MLF et les LGBTQI, c'est pas toujours le grand amour. Enfin, là, il s'agit pas de surcourant, de les intersectionnels. Et ben, ils sont concernés parmi tout, exactement comme les dames qui étaient au MLF avant, ou comme les femmes qui se disent pas féministes et qui s'en foutent un peu sur le principe, mais qui vivent cette pression-là, qui sont traitées comme des femmes et qui ne vivent pas bien. Et du coup, j'y ai senti une forme de communauté possible, réelle, immense, et qui peut relever de l'utopie pour certains, mais je le vis comme ça, et j'ai l'impression que c'est un mouvement qui a un élan réel, quoi, et collectif surtout.
Et qui ne nécessite pas de formation idéologique.
Non, c'est pour ça que je dis organique, je crois que c'est réactif, parce que c'est ce qu'on vit toutes. Et du coup, il n'y a pas besoin de le penser plus que ça, quoi. C'est subi. Il n'y a pas. D'habitude, on est beaucoup dans la déconstruction. Et là, en fait, il s'agit de pas de déconstruire l'impunité, mais de l'imposer, quoi. Donc c'est plus simple. Et peut-être que c'est pour ça que l'engouement est si large aussi. C'est un élan spontané, naturel, qui n'a pas besoin d'être pensé en groupe avant, mais qui fait groupe après.
Ce qui est intéressant dans le livre, c'est que oui, on a l'impression que vraiment c'est un texte qui accompagne ce mouvement-là. Et non pas qui, si on pense à d'autres manifestes dans l'histoire, de la littérature, c'était l'idée qu'il y avait une direction indiquée.
Ah oui, non, moi c'est pour ça que il y a un petit côté manifeste, effectivement, mais c'en est pas un revendiqué, parce que je revendique rien dans cette affaire, je lance rien, je parle d'où je suis en précisant bien à quoi ça ressemble, et je demande juste aux copines d'être attentives à ce qui se passe, parce que c'est important qu'il y ait une solidarité et un mouvement de masse qui se fasse vraiment, mais c'est pas, ça fait pas école, quoi.
Est-ce qu'il y avait l'idée aussi d'écrire un texte qui soit, je vais utiliser un mot étrange, mais pratique?
Bah oui, un peu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais j'ai pas trouvé assez d'astuces, de trucs et astuces concrets. Donc du coup, sinon j'aurais bien fait un manuel de survie ou un petit guide à l'usage des copines pour en finir avec le patriarcat. Mais j'ai manqué de recettes et de trucs. Donc du coup, j'ai trouvé le badaboum ou deux, trois petites anecdotes. Le badaboum, c'est si vous entendez quand vous entendez des propos sexistes, au lieu de monter sur vos grands chevaux ou de vous taire, vous dites juste badaboum. Et en général, ça marche, mais il faut pas être toute seule. Mais ça marche.
Et vous l'avez testé, vous le dites.
Oui, je l'ai testé. Puis ça, ce qui est bien avec le livre là, c'est que du coup, je vais en librairie ou dans des salons, donc je rencontre du public et les garçons s'y mettent aussi. Et dans le public, je crois, c'est appliqué. J'ai des anecdotes de cas où le badaboum est sorti, qui est en famille, qui est au bureau. C'est plutôt marrant.
Ce qui est important quand même dans ce mouvement actuel de hashtag, c'est que pour la première fois, ça va obliger les hommes à s'interroger. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé jusqu'à présent. Parce que, bon, l'avortement, vous pouvez dire, bon, c'était une affaire de femme, bon, d'accord. Et justement, ils ne se sentaient pas concernés. Mais là, ils sont vraiment mis, parce qu'ils sont acteurs, là. Ils sont acteurs. Le harcèlement sexuel, c'est l'excès de domination. Et là, vraiment, ils sont mis en question. Et je crois que c'est très, très important. Et c'est Françoise Héritier, l'anthropologue que j'admirais profondément, qui disait qu'il fallait que la virilité, c'était le trou noir, le gouffre par lequel était arrivé tout ce qui est dans le monde. Et c'est-à-dire qu'effectivement, on n'interroge pas ça. Et certainement, ça va être, c'est le trouble des hommes. Beaucoup disent, mais moi, je n'ai jamais fait ça, etc. Et ça oblige quand même à, voilà, à se dire, mais la société, comment fonctionne la société? Ben, elle fonctionne effectivement par les hommes.
Chloé Delhomme, on écoute la voix d'Annie Ernaux, une archive de la Grande Table, c'était en juin de l'année dernière, 2018, où elle parle de l'affaire MeToo notamment, et de cette question du trou noir de la virilité, pour citer Françoise Héritier. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle sur cette idée que la question et le problème, c'est avant tout les hommes?
Bah oui, faut quand même le reconnaître à un moment donné. Je suis désolée, mais c'est... Non, c'est le problème du patriarcat établi comme tel. C'est pour ça qu'il faut pas proposer un matriarcat à la place qui n'aurait pas de sens. D'où l'idée de la sororité qui serait un mouvement horizontal qui du coup casse l'idée de la pyramide, l'idée du plafond de verre.
On retrouve très souvent dans le texte l'idée que ils sont fatigués, les virilistes.
Mais je crois que oui, ils sont fatigués et fatigants, mais ils sont surtout fatigués et puis plus tellement regroupés. Enfin, je veux dire, le mec moyen ou le jeune homme en construction actuellement a pas super envie de prendre modèle sur le papatron, quoi. Enfin, c'est pas de ça dont ils ont besoin pour se construire, parce qu'on sait que c'est un modèle qui marche pas, qui marche plus, c'est un modèle violent. Et aussi parce que je crois qu'il y a un truc culturel par rapport à la notion de l'agresseur harceleur, du prédateur. C'est beaucoup moins dans les... Enfin, ça l'est toujours, mais quand même nettement moins... c'est moins acquis socialement, quoi.
Mais c'est en ça que c'est une forme de lutte, et une lutte qui a lieu sur, justement, la bataille culturelle. Enfin, c'est-à-dire que le patriarcat, ou même tout l'imaginaire que vous racontez, que vous déployez, de la gaudriole, qui peut passer notamment par Collaro, oui. Que vous regardiez étant enfant, ouais, c'est une culture.
Bah c'est
lutter contre une culture.
C'est lutter contre une culture qu'on sait dangereuse. Parce que on sait très bien que la chaîne des violences sexistes, elle est pour arriver à un viol, c'est pas le viol, il tombe jamais du plafond. Enfin, je veux dire, c'est tout est des réactions en chaîne. Il y a eu des essais. Enfin, là, le titre m'échappe, mais Camille Fradvaux-Métairie en parlait l'autre jour à un débat. Tout est une petite réaction en chaîne. Donc, du coup, il faut absolument neutraliser et à défaut d'abolir. Ça se passe par une neutralisation et un changement. Et donc, du coup, comme là, on est dans la prise de conscience et la prise d'action, ça veut dire effectivement bloquer, empêcher, faire cesser. Donc après, il peut y avoir le côté, mon Dieu, serait-ce l'avènement d'une vague de mormones.
Le retour de la censure.
Ouais, moi je ne crois pas. Je crois que c'est juste qu'à un moment donné, on arrête de prendre les femmes comme... des objets justes, avec une réification permanente, mais surtout avec ce truc culturel de la propriété où la femme est pas. Alors de Beauvoir tout à l'heure, c'était autonome financièrement, mais il y a aussi une propriété de l'homme, quoi. C'est ce côté, c'est Moïse, hein, c'est le patriarcat va de pair avec ça. C'est le territoire et le corps de la femme. Et tout ça en étendant bien ses membres comme dans le métro. Donc je crois qu'il y a un rapport même à l'espace public. Enfin, ça va très loin. Je veux dire, la colonisation du territoire mental et physique par le mâle alpha, à un moment donné, c'est irrespirable pour tout le monde. Et le fait est qu'ils ne sont pas majoritaires en termes de nombre. Donc à un moment donné, je pense que la tendance peut être renversée. Simplement, c'est de la vigilance... Et une forme de vigilance qui, passant par les mœurs, c'est effectivement qu'on ne ricane plus à la blague grasse qui sort, que en cas d'entente de violence conjugale, eh ben on intervient et on est ferme. Et c'est plein de petites choses comme ça.
Vous écrivez à un moment « neutraliser la gaudriole ». Conserver le sens de la rigolade. Oui, c'est important de maintenir ça pour vous.
Non, mais ça, c'est super important, parce que c'est ça qui fait qu'on est justement dans le badaboum et pas dans la mormone. Parce que c'est contre-productif, on le sait. Et en plus, dans les choses qui sont reprochées aux féministes, bah, tout à l'heure, notre grande Simone le disait aussi, elle revenait même sur l'amour. C'est toujours, les féministes sont en gros des mal baisés comme d'habitude, et puis qui veulent entériner la part animale qu'il y aurait dans la femme qui rêve de s'exprimer. Enfin, il y a toujours ce truc, un peu cette volonté d'importuner qui n'est revendiquée que par des femmes qui prennent jamais le métro et qui travaillent pas au bureau en jupe. Mais à part ça, voilà.
En lisant Mes bien chères sœurs, il y a plein d'endroits où moi j'ai ri. C'était aussi une manière de se réapproprier la forme comique.
Bah, disons qu'en général, je fais des blagues, mais elles font pas tout le temps rire de façon consensuelle, on va dire. Mais c'était important que le ton soit dans la punchline et dans l'humour, parce que c'est joyeux ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire que même s'il faut dénoncer toutes les violences qui ont encore cours, y compris les plus brutales, je pense que nous sommes dans une période joyeuse, où bientôt les filles danseront sur l'eau. On est dans un avènement, on est dans une post-apocalypse. Les choses ont été dévoilées, apocalypse, ces révélations. Et maintenant, tout le monde est conscient de ce qui se passe. Il y a des choses très belles qui se passent par le biais des réseaux sociaux aussi, qui sont une nouvelle forme, du coup. C'est-à-dire que, oui, par exemple, pour l'affaire de la Ligue du LOL, il y a eu harcèlement sur cet espace. Mais en même temps, sur le même espace, c'est là que se règle le MeToo, que se règle Balance ton port et que la balance est rééquilibrée. Donc, on investit absolument tous les territoires et les nouveaux territoires. Et ça doit se faire. Et puis... Puis le sens de l'humour, c'est même dans le Scum Manifesto de Valérie Solanas, elle précise d'entrée qu'il faut avoir le sens de la rigolade. Elle allait beaucoup plus loin dans son automation, la suppression des mâles en général, la reproduction que par clonage. Enfin, ça allait beaucoup plus loin que mon petit manifeste rigolo, quoi.
Il y a aussi l'idée dans le mouvement MeToo, que ce soit un lien entre les femmes qui soit horizontal.
Oui.
Et c'est une chose dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, la question de l'horizontalité, en tout cas dans la lutte. Et c'est aussi quelque chose qui vous a frappé.
Bah, ce qui m'a frappé, ça a été à quel point c'était horizontal, et puis aussi l'absence de corps jouait. C'est-à-dire que quand une femme se livre IRL, enfin dans la vraie vie, sur une question de viol ou de harcèlement, il y a le regard qui est posé, qui met en cause implicitement sur le côté n'aurait-elle pas bien cherché. Voilà, on va juger son corps, on va juger sa posture, ses vêtements. Il y aura des remises en cause de sa parole. Alors que là, aucune parole n'a jamais été remise en cause. Le jugement n'est plus là, et il y a juste solidarité, soutien immédiat et indéfectible, en fait, quelque chose de l'ordre, comme s'il y avait un pacte tacite entre amis inconnus, en quelque sorte. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très beau à observer, et c'est pour ça aussi que j'ai autant d'optimisme en moi en ce moment, c'est de voir à quel point c'est humainement sublime, quoi, ce qui se passe. Et inédit, et vraiment inédit.
Il y a aussi une autre dimension qui est celle de la statistique. Dans le livre, il y a souvent des statistiques qui apparaissent. Est-ce que c'était important pour vous de les faire apparaître justement ?
Alors, c'est souvent une vieille obsession, les statistiques, pour avoir des fragments de réel, et puis parce que les chiffres, c'est quelque chose qui m'effraie totalement. Enfin, j'ai un rapport aux mathématiques qui est de l'ordre de la phobie. Et je crois que les chiffres, du coup, deviennent des sortes d'incarnations hyper concrètes, hyper flippantes. Et du coup, là, il y en a plein, mais c'était un peu l'équivalent du « d'où je parle », les chiffres. C'était un peu pour montrer... pour ancrer dans le réel, oui. Oui, c'était le pendant. Mais c'est vrai qu'il y a même tout un chapitre avec les poupées Barbie, avec plein de stats dedans sur les violences faites aux femmes et la vie sexuelle des Français, on va dire. Puisqu'une famille sur cinq est incestuelle, en gros. Donc, c'est des choses choquantes comme ça, comme je compulse souvent des statistiques, parce que ce rapport me fascine. Quand elles étaient vraiment saillantes, ou même si je fais des rapprochements, des fois qui vont un peu du coq à l'âne, mais ça marche comme du cut-up, parfois aussi, les stats dans le livre. Mais je pense que ça réveille, ça pique les yeux, quoi, un peu.
Et c'est une certaine manière de rappeler une chose qu'on voit, une idée qui apparaît souvent, c'est l'idée que le privé est politique.
Oui, ça c'est super important. Le privé est politique et la littérature est politique aussi. Pour moi, c'est la même chose finalement. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il fallait que je précise de chez qui j'écrivais et de quoi était constituée cette écriture aussi, je pense. Donc, j'ai essayé d'être la plus c'est pas transparente le mot, mais disons frontale, ou en tout cas, enfin, je suis toujours sincère, le mot bien dégueulasse.
Pourquoi?
Bah, je sais pas, il y a un côté, il y a un côté étalage ou. Mais en venant de l'autofiction, il n'y a pas de filtre, donc de toute façon, c'est juste que d'habitude, il n'y a pas de filtre, mais il y a beaucoup de stylistique. Donc là, on a enlevé la stylistique et puis on est resté sans filtre. Et du coup, peut-être que cette fois-ci, on est comprise.
Vous pensez que c'est vrai? Enfin, que vous êtes beaucoup plus comprise dans Mes bien chères sœurs que dans Une femme avec personne dedans?
Bah, je le vois là sur. En même temps, c'est un peu trop tôt pour dire le livre est sorti il y a un mois, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de réactions que d'habitude, en tout cas, proportionnellement aux fois précédentes. Et puis, d'habitude, il y a beaucoup de retours qui sont liés justement sur l'aspect littéraire pur. Là, l'aspect littéraire, il y est quand même, évidemment. Enfin, j'ai quand même une forme. Je vous ai pas écrit un bouquin comme une petite truie. Il faut pas pousser. Mais disons que j'essaye d'être claire. L'objectif était d'être claire. Donc, ça verse plus vers la punchline que la métaphore filée, du coup. Et c'est un objet littéraire quand même, mais l'objectif n'était pas de faire expérience esthétique. Voilà. D'habitude, mon ambition première dans tous mes ouvrages, c'est expérience esthétique pour le lecteur. Là, c'était contenu politique, je dirais, transmission, ce qui était inédit. Et peut-être que du coup, il y a plus de réceptivité parce que j'ai l'envie de communiquer aussi. Alors que d'habitude, c'est pas tellement mon ambition première, l'envie de communiquer. Mais là, j'avais quelque chose à dire. Voilà, d'habitude, j'ai quelque chose qui est plus à raconter.
Keep on talking, marching down to freedom's land. Ain't gonna let segregation turn me around, turn me around, turn me around. Ain't gonna let segregation turn me around. I'll just keep on walking, keep on talking, marching down to freedom's land. Ain't gonna let no jailhouse turn me around, turn me around, turn me around. Ain't gonna let no jailhouse turn me around. I'm just a keep on walking and keep on talking, marching down a freedom lane. Ain't gonna let racism turn me around, turn me around. Up to freedom's land. Ain't gonna let no hatred turn me around, turn me around, turn me around. Ain't gonna let no hatred turn me around.
France Culture, par les temps qui courent, Romain de Bec de Lièvre avec Chloé Delhomme.
Marching down to freedom's land.
Chloé Delhomme, je vous propose qu'on écoute un extrait de Delphine Sering qui lit le Scum Manifesto de Valérie Solanas dans un film de Carole Roussopoulos en 1976.
Et détruire le sexe mâle, point. Il est maintenant possible de se reproduire sans l'aide des hommes. Ni même en fait des femmes, et de ne produire que des femmes. Nous devons immédiatement commencer à le faire, point. Le mâle est un accident biologique. Deux points. Le gène mâle Y est un gène femelle X incomplet, virgule. C'est-à-dire qu'il est un ensemble incomplet de chromosomes. En d'autres termes, l'homme est une femme incomplète, virgule, un avortement ambulant, virgule, avorté dès le stade du gène, point.
Chloé Delhomme, c'est donc un extrait du film de Carole Rousseau-Poulos, Scum Manifesto, d'après le texte de Valérie Solanas, que vous citez dans votre livre Mes bien chères sœurs. Est-ce que c'est important pour vous de faire apparaître la figure de Valérie Solanas, ou en tout cas de la transmettre?
Ouais, de la transmettre, c'est très très important. Je la fais apparaître même dans Les Mouflettes d'Atropos, mon tout premier texte quand j'étais petite. Valérie Solanas, c'est j'ai un podcast que j'ai fait avec les Parleuses qui va être disponible bientôt où je raconte sa biographie et je rappelle ses textes. C'est une très grande féministe, mais c'est une super grande misandre évidemment. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est une femme qui toute sa vie n'a gagné sa vie qu'en se prostituant, qui a été violée par son père aussi, qui a fait des études de biologie, donc l'histoire de la génétique, ça, c'est là que ça lui est venu. C'est une figure puissante, c'est un cri, Solanas. C'est pas une femme, c'est un cri. Le Scum Manifesto, c'est un cri. Elle dit, lisez mon manifeste, il vous dira qui je suis, mais en fait, c'est juste un hurlement, Valérie Solanas. Et c'est le premier texte qui est vraiment contre le patriarcat, ce qu'elle appelle le sexe masculin. Bien sûr, elle est concrète, hein, elle est concrète. Mais en même temps, on peut évidemment qu'y voir une vision du mâle blanc dominant qu'elle a bien connue.
Dans l'extrait qu'on entend lu par Delphine Seyrig, il y a cette idée que la femme est une production. Et avec les espèces de mouvements de machine à écrire, enfin de bruit de machine à écrire qu'on entend, il y a presque une dimension industrielle.
Oui,
comme si on les avait fabriquées en usine, quoi.
Les femmes, en général, fabriquées en usine, oui. Et puis, dans le Scum, il y a le côté l'automation. Enfin, il y a... Ça va de pair, mais ça me fait plaisir d'avoir du Solanas sur ce plateau.
La transmission, en tout cas, de ces combats-là, ou de certains nombres de figures, enfin, ou la transmission générale de la lutte, des luttes féministes, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de mes bien chères sœurs.
C'est important la transmission, c'est important pour faire advenir, et puis aussi parce que c'est le rôle d'un écrivain et d'une autrice, du coup, voilà, de transmettre. Alors d'habitude c'est avec du corpus littéraire. C'est vrai que dans mes autres livres, j'aime bien réactiver des petits bouts de mort par des bouts de cut-up ou des trucs comme ça, ou des métaphores détournées piquées à d'autres, bien morts et enterrés. Là, il s'agissait de transmettre des données. Mais de les transmettre clairement, que ce soit un livre qui soit utile aux jeunes filles, en fait. C'était un peu mon idée. Utile à toutes, bien sûr, mais qui soit... C'est pour ça que l'idée du manuel à l'usage des jeunes filles, à un moment donné, m'avait traversé l'esprit comme un petit guide pratique en temps de guerre.
Il y aurait l'idée que le livre soit un geste qui soit un peu de l'ordre aussi de performatif, c'est-à-dire qu'il produise un appel, ou en tout cas... en appel et construisent la communauté.
Parfaitement. C'est
de
exactement
la sororité.
Ça. C'est exactement ça. Le livre est un geste performatif qui fait sororité, qui appelle à provoquer la sororité. Alors, les gestes performatifs, c'est pas la première fois, parce que j'avais fait, entre autres, un livre pour tuer ma grand-mère, ce qui avait moyennement marché, mais bon, elle est morte quand même, mais je ne peux pas m'en attribuer la gloire, hélas. Là, j'aimerais bien que ce soit utile. Enfin, c'est très 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 bizarre. Peut-être que ça, c'est lié à la deuxième partie de vie, au fait de pas avoir d'enfants aussi. Qu'à un moment donné, la question de la transmission, je me la pose. Alors que les autres questions, pas du tout. Enfin, je veux dire, sur la question de la maternité, je suis parfaitement en accord avec moi-même. Mais la notion de la transmission, je donne des cours en atelier d'écriture aussi maintenant, où il y a un besoin, effectivement. Et là, du coup, il y avait besoin de faire matrimoine un peu. de transmettre ça. Donc j'ai essayé de mettre dedans ma propre marraine, Solana étant un peu ma marraine que j'ai kidnappée de force, mais c'est un peu ma propre marraine.
Est-ce que la sororité, vous pourrez le définir comme un projet de société ?
Un projet de société, je pense que ça serait plutôt le levier qui amènerait à une nouvelle société, parce que la sororité est qu'un moment. C'est-à-dire qu'après, il faut pas pousser sur les alliés. La sororité, on sait bien que c'est la non-mixité, donc c'est quand même excluant. Donc à terme, on peut pas en faire une méthode. Mais c'est un levier, et je pense que ça peut être un travail sociétal sur la décennie qui vient, par contre, vraiment. En passer par cet état de sœur, par ce lien indéfectible, par ce rapport de solidarité extrême et précis, qui peut amener à l'abolition du plafond de verre, qui peut amener à plein de choses. Mais après, il faudra remettre les hommes dans la danse, les hommes qui seront débarrassés des mal-alpha, évidemment, et des prédateurs tels qu'on les connaît. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut passer la main qu'aux femmes, qui après la repasseront au collectif mixte. Mais là, je suis pour un petit moment où on nous laisse un peu faire notre cuisine.
Il y a une scène assez étonnante dans le livre qui implique des scouts-filles.
Oui.
Avant les années 40, et qui représente en tout cas une organisation et une forme de petite communauté de sœurs. C'est quelque chose que vous avez trouvé, enfin, c'est un événement historique qui a existé?
Non, c'est-à-dire qu'en fait, l'événement historique, c'est que le mot sororité est rentré dans les années 40 dans le vocabulaire des Jeannettes, pour après en sortir au profit de sestralité. Donc, à partir de là, je crée une petite histoire en mettant en scène des petites Jeannettes qui trouvent le mot sororité fossilisé au fond d'un gouffre. Mais, non, là, il y a une donnée historique sur le lexique, effectivement, mais c'est tout. Après, chevrette curieuse n'a jamais existé.
C'est Chevrette Curieuse qui est le nom de la
d'une des petites Jeannettes.
Dans l'idée, en tout cas, aussi de diffuser la sororité, l'importance, c'est la question des mots et la réappropriation d'une forme de langage. C'est quelque chose qui court dans tout le livre, et notamment la question de la féminisation des noms, notamment.
Ah oui. Bah, c'est vrai que moi, là, pour nous, ça fait un mois à peu près que l'Académie a cédé sur Autrice. Bah, pour moi, c'était vraiment la fête, et encore un signe très fort de changement qui est en cours. Je pense que il faut féminiser, il faut aussi ce que je fais souvent quand j'ai affaire à un groupe où il y a un gars, alors ça m'arrive souvent dans le travail, parce que les ateliers d'écriture ou les rencontres en librairie en général, bah moi ça a toujours été comme ça en fait, c'est pas lié qu'à ce livre. J'ai deux garçons pour une assemblée de filles. Dans ces cas-là, je préviens que le féminin va l'emporter sur le masculin. Mais il faut, quand c'est flagrant, et puis la féminisation au maximum du plus de mots possible, l'utilisation d'épicènes aussi, enfin, des choses comme ça. Je pense que c'est important parce que ça fait partie un peu comme pour les mœurs, c'est un encadrement différent, ça fait bouger les lignes, ça rentre dans le quotidien, ça banalise, ça normalise, et c'est nécessaire.
À la toute fin du livre, il y a l'idée que le projet, c'est l'avènement d'un monde qui soit habitable.
Oui.
Il y a une phrase qui dit ça. Est-ce que c'est ça l'horizon ?
Bah oui, c'est l'horizon, c'est un univers habitable où le yel, justement, le il plus elle, grammaticalement, serait même accepté.
Enfin, le pronom yel.
Le pronom neutre, le pronom yel, où un monde habitable, parce que tel qu'il est là, il est irrespirable. Et que je vois pas d'angle politique de lutte qui puisse vraiment modifier radicalement, économiquement, son temps, ou des angles comme ça. Donc du coup, je me dis que par les mœurs, effectivement, on peut-être rendre ce monde un peu plus réoxygéné, parce que c'est très très dur, très brutal, et qu'il faut essayer de trouver des solutions. Alors moi, avec mes petits neurones, je ne peux pas faire grand-chose, mais j'ai essayé de trouver une petite brèche. Et je pense que la sororité fait partie des choses qui peuvent changer le monde. Oui, allons-y carrément.
Est-ce que vous la percevez,
oui,
cette communauté ?
Je perçois la sororité depuis que je l'applique. Je la perçois grandir. Je vois que alors chez les jeunes filles, c'est encore plus flagrant, parce que moi, j'appartiens à une génération où quand même les mamatrones, c'était un truc où il y a beaucoup de syndrome de la schtroumpfette. Donc là, la seule fille pour le groupe de garçons qui tient bien à rester. Mais j'ai l'impression qu'elles sont plus solidaires, les jeunes filles, elles fonctionnent plus en groupe. Et puis il y a un retour en France aussi un peu au groupe de parole de femmes maintenant, qui joue beaucoup. Une organisation un petit peu à la sauvage hein, qui se fait, c'est pas obligatoirement du militant encadré, mais je le sens très fortement, ouais.
Et ce serait un mouvement de la base.
Ouais, ça part de la base. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça part de la base qui va faire s'effondrer la pyramide. Comme une sorte de centrifugeuse très très vivace et virevoltante.
La sororisation, c'est l'action de sororiser. Sororiser, c'est rendre sœur. C'est créer par la qualité des liens une relation qui amène à l'état de communauté féministe. Une communauté soudée, animée par la même volonté de déjouer les stratégies paternalistes et la violence sexiste ordinaire, terreau fertile au viol et aux uxoricides. La sororisation, c'est aussi former le cercle qui enserre le réel pour le modifier tout de suite, le rendre respirable, éradiquer les pressions et tensions dans la pièce, empêcher toute suprématie couïdienne de s'établir. Un pacte tacite et immédiat. Un pacte de non-agression. Très concrètement, pour commencer. La sororisation implique une démarche consciente, un rapport volontaire à l'autre. La sororité relève de l'intime et du public. Parce que dans le privé, faut quand même pas charrier, on a toutes des frangines sur qui on peut compter, avec qui on fait bloc, des piliers dispersés, un socle ou une grosse team. La sororité, c'est toujours pratiquer, faire bande, ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile en tant que femme, c'est de modifier le regard qu'on pose sur une fille. La méfiance, l'ironie protectrice, les tests, ce qu'on se dit dans sa tête, les tout premiers réflexes. Ce qui va alimenter la dissolution de la sororité au contact de l'espace public, ensuite aussi.
Chloé Delhomme, on écoute un dernier extrait de « Mes bien chères sœurs », lu par Jeanne Aléos sur cet appel à la sororité. Et on finit là-dessus.
Bah oui.
Ça vous va ?
Ça me va très bien, je vous remercie.
Merci à vous. « Mes bien chères sœurs », c'est publié aux éditions du Seuil.
Yo, girlfriend, you hear me ?
Who's this ?
Big woman, too. I'll be a old lady. You want to see her again? Make your money talk.
You're never gonna get my mom.
You got chatty mouthing me.
No girl can't tell me about my mother. 60 shots, we go longer than a ladder. Them nothing talk, but they real done that. Put money in a pot, them a bun like grubber. No boy can't diss me or my mother. Round here ain't safe, everybody need ammo. 60 shots, we go shot out any bladder.
Merci Chloé Delhomme. Vous serez l'invité de Une vie d'artiste, l'émission d'Aurélie Charron, ce samedi 6 avril. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. Au son ce soir, c'était Alain Joubert, Charles Trou à la réalisation. Merci à Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Luc Vauvillier et Valentin Rémy qui pensent et préparent cette émission avec moi. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast.
When my mommy